marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.
La résurrection des pommes.
La pomme française, elle a une réputation de qualité mondiale. C'est une pomme qui est une belle pomme. Et les producteurs français sont malheureusement passés du deuxième au cinquième rang mondial parce que, vous savez, nos arboriculteurs souffrent beaucoup. Cette pomme française, elle joue un rôle international très important puisqu'une pomme consommée dans le monde sur 10 est française. Et une pomme consommée sur 5 en Europe est française.
Alors ça, c'est Sylvie Brunel, on parlera chiffres, on l'entendra tout à l'heure, mais d'abord des lettres. Si on s'en tient au texte d'origine du livre de la Genèse, il y est question dans le paradis terrestre d'un fruit de l'arbre, bon à goûter et séduisant à voir. Dans les traductions en latin, le mot pomum nomme au départ tout fruit comestible d'un arbre, qu'il soit à noyau ou à pépin. Puis, il élargit son champ, évinçant le malum, qui désignait plus précisément la pomme. Le latin médiéval confirme cet ancrage. Le pomarius est l'arbre qui porte la pomme. La traduction latine du Cantique des Cantiques, on est dans la Bible encore, peut donc être transcrite ainsi en français. Tel un pommier parmi les arbres du bois, tel mon bien-aimé parmi les fils, à son ombre j'ai désiré m'asseoir, et son fruit est doux à mon palais. En québécois, on dirait plus simplement, le bien-aimé chante la pomme. La pomme revient sans cesse donc dans l'écriture, puis dans la littérature, pour nous rappeler que nous avons perdu le jardin d'Aden. Les peintres n'ont jamais cessé non plus de la montrer du doigt. Un tableau de Magritte représente une pomme qui occupe tout l'espace d'une pièce. Il est intitulé « Chambre d'écoute ». Il est temps d'écouter la pomme. Justement, la période pascale est pour le christianisme le temps de la récapitulation de toute la création, du rassemblement de toute la tradition. C'est le moment ou jamais de célébrer la pomme, un signe de l'intérêt que lui portent les chrétiens d'aujourd'hui. On se souvient peut-être que Pâques est précédé par une période de jeûne qu'on appelle le carême. Les établissements d'enseignement catholiques recommandaient souvent à leurs élèves de s'y contenter le vendredi d'un bol de riz et d'envoyer le montant de l'économie réalisée à une association caritative. Eh bien, de nos jours, le bol de riz est de plus en plus remplacé par un menu pain-pomme. On va dire que c'est un choix diététique, c'est d'abord un recentrage doctrinal. Bouvard et Pécuchet expliquaient que le christianisme a pour base une pomme.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Voilà, c'était une justification parce que les sensibilités religieuses aujourd'hui sont exacerbées. Jean Lefèvre, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Je suis désolé d'avoir commencé ainsi devant un esprit laïque comme le vôtre. Il vous en arrive d'employer les mots latins, vous aussi, homo benevolus. C'est une des définitions que vous donnez de vous-même.
Oui, j'ai dû écrire quelque chose comme ça.
Parmi les actions militantes nombreuses que vous avez menées, vous avez adhéré il y a 40 ans la fondation aux croqueurs de pommes. Les croqueurs de pommes seraient nés d'un pépin à Montbéliard.
Oui, ils sont nés en 1978 à Montbéliard. Et évidemment, les grands créateurs, les grands pommologues de l'époque s'appelaient Georges Guettal et Claude Scribe. Enfin, on pourra en parler de leurs travaux, qui sont étonnants, parce qu'ils voulaient faire ressurgir toute cette richesse, de la pomme, mais pas seulement des pommes, des poires, des prunes, etc.
Résurrection des pommes. Voilà,
résurrection de l'ensemble.
Et si on remonte très loin dans votre enfance, vous me disiez que vous étiez aux pommes au moment où on récoltait les pommes pour le cidre.
Ah oui, dans mon village de Percy-en-Auge, je me souviens encore de cette odeur capiteuse extraordinaire qui vous prenait, parce qu'on tombait presque dans les pommes, c'est peut-être un jeu de mots, mais la machine à broyer les pommes passait dans le village, et puis mon grand-père avait préparé les sacs, et il y avait un grand tuyau qui remplissait le tonneau, un énorme tonneau pour moi. Mon grand-père faisait entrer mon frère dans le tonneau pour le nettoyer à la brosse, avant cette opération-là.
Et maintenant, vous animez les croqueurs de pomme de l'Aube, et vous retrouvez les mêmes odeurs du côté de Bar-sur-Aube.
Dans la montagne de Reims. Voilà.
Mais aussi bien sur les côtes de Bar, c'est les mêmes odeurs.
Oui, tout à fait. Oui, c'est quand on presse le raisin, puis quand il commence à mousser, quand il commence à travailler.
Le même bonheur donné par des fruits différents. Alors, vous étiez un peu pomme rouge, si j'ai bien compris, dans votre jeunesse, et il vous est arrivé d'aller visiter l'URSS, et vous êtes passé au Kazakhstan, à Alma-Ata, et vous n'avez pas repéré que c'était dans ce coin-là que peut-être la pomme était née.
Voilà, c'était, je l'avoue humblement, non, je ne savais pas qu'il y avait tant de pommiers, mais il y a eu beaucoup de forêts de pommiers, il y en a eu aussi en Turquie, et alors donc aujourd'hui les savants vont quêter l'origine de la pomme.
Le décodage du génome de la pomme débouche sur une certitude du moment. Le berceau se trouverait au Kazakhstan. Extrait d'un documentaire d'une biologiste, Catherine Pex.
Ici, à la limite des neiges éternelles, pousse une forêt. Une forêt particulière, primitive, où dans les ronces, les herbes et les fleurs s'enchevêtrent des arbres. Ils peuvent avoir plus de 30 mètres de haut et leur tronc 2 mètres de large. Sur leurs branches et à leurs pieds, des tonnes de pommes. Ces arbres géants sont des pommiers sauvages. Serions-nous dans le jardin d'Éden? Nous sommes au Kazakhstan, tout près de la frontière chinoise. Pays des aigles, des ours, des lynx et du léopard des neiges. Ici, à 2000 mètres d'altitude, par des températures extrêmes de moins 40 l'hiver à plus 40 degrés l'été, poussent étrangement des forêts entières de pommiers sauvages.
Le pays des lynx et des ours. D'ailleurs, les ours ont leur importance.
Oui,
je me demande comment.
Oui, tout à fait. On a fait venir Catherine Pex chez nous dans l'Aube, ouais. Qui nous a présenté son film, qui a été tourné à peu près pas très loin d'Alma-Ata. Or, Alma-Ata signifie pomme ou grand-père des pommes, un petit peu comme Aval en breton. Je me demande s'il n'y a pas un rapprochement linguistique à faire. Aval, qui veut dire pomme, qu'on trouve dans Avalon, dans Avaleur, peut-être dans le pays d'Auge. Et Catherine Pex a fait aussi ce rapprochement étonnant avec Noé, qui a échoué pas loin. Et c'est un film biblique. D'ailleurs, ça me rappelle que la première croqueuse de pommes à tester s'appelait Ève.
Mais vous n'avez pas répondu sur le rôle des ours végétariens dans la sélection des pommes au Kazakhstan.
J'y venais. Donc, poussait donc des... Elle a constaté que, d'ailleurs, cette forêt est bien abîmée. Hein. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Donc, cette forêt moderne, c'est pas une forêt original, c'est pas une forêt sauvage, c'est pas voilà, donc les arbres sont aussi diversifiés que les nôtres, donc non sauvages. C'est Carl Sievers en 1789 qui a visité les monts du Tian Shan et l'ours le voilà alléché par les pommes sucrée et grosse, eh bien, il a sélectionné d'une façon que vous comprenez ses pommes, et puis après l'homme a fait le reste avec.
Il croque les pommes et il recrache les pépins.
Il recrache d'une
certaine façon. On
parlera
pas des excréments des ours. Non.
Voilà, tout à fait. D'accord. Mais les chevaux ont fait ça, l'homme aussi. L'homme a fait le reste avec les caravanes de la soie. Donc des graines et des graffons sont arrivés chez nous, et les savants depuis quelque temps ont eu vent de la chose. Ils se sont précipités et les génétiques italiens ont décrypté le génome de la pomme, je peux vous le dire, dans les années 2000-2007. Et le génome du pommier s'est prouvé aujourd'hui. Nous avons affaire à la même espèce que notre malus de chez nous, qu'on appelle malus pumila ou malus domestica, qu'importe. Alors je me dis que c'était peut-être pas la peine d'aller aussi loin pour chercher ce que nous avons sur la main. Mais le but est quand même intéressant. On en parlera peut-être tout à l'heure, c'est de créer des variétés nouvelles.
Puisque vous parlez latin, un certain nombre de variétés étaient identifiées par les Romains. Vous avez une affection pour un auteur qui s'appelle Columel. Des variétés du Moyen-Âge, désignées encore parfois par le latin, mais aussi de plus en plus par le français, qu'est-ce qu'il reste?
Le Malus, il porte bien mal son nom pour une pomme déjà. Je pense à mon assureur auto. Ce qui reste, à mon avis, c'est ma thèse à moi, mais elle peut être démontrée différemment. Je pense que depuis les fruits comme la faro, la châtaignée, qui ont été décrites au XIVe siècle, XVe siècle ensuite, ces pommes-là existent toujours, s'il s'agit de la même. Mais les pommes d'avant, c'est-à-dire des pommes qui remonteraient à 10 siècles, moi, à mon avis, ça n'est pas possible d'en trouver aujourd'hui parce qu'il y a eu des événements historiques, le froid, le gel, par exemple, dans la région de Chaours en 1709 et dans tout l'est de la France, il a gelé pendant 6 semaines à moins 30 degrés. Donc toutes les variétés existantes ont été détruites. Baltais, si on en reparle tout à l'heure, il a écrit un livre sur le rôle du gel en 1879, excusez-moi. Donc il expliquait tous les dégâts qui ont été commis. Ensuite, pour que les variétés soient transportées jusqu'à chez nous, il faut un greffeur par génération. Or, il y a eu des guerres, il y a eu des difficultés. Donc je pense que ces variétés de Charlemagne...
On
ne les retrouvera pas.
Alors, Baltais, on va y venir parce que c'est un pomologue, et pas seulement, c'est un pionnier du verger. Il avait, dans la bonne ville de Troyes que vous habitez, un verger de quelques 7 hectares, un peu plus grand que celui ici décrit en Auvergne par le père Johannet. Alors, le père Johannet, c'est un journaliste des années 60, qui en Auvergne coiffait un béret, mettait une moustache postiche et interviewait en imitant l'accent auvergnat, ici, un propriétaire de verger.
C'était René Bapu.
Ben, monsieur Jallier, on peut dire que vous avez un beau verger. Là, on a vu tous vos cueilleurs. Combien donc vous en avez là?
Ah ben, monsieur Johannet, j'en ai une vingtaine.
Une vingtaine et à votre verger conséquent, alors?
Ah ben oui, de cette parcelle-là, fait 5 hectares.
J'en fais à peu près combien de pommiers?
Ah ben, il y a environ 2000 pommiers, puisqu'ils sont plantés à 5 mètres au carré environ, ça fait dans les 2000 pommiers.
Oui, vous savez bien ce qu'on dit dans la ville, on dit, voilà, ceux qui ont un bout de verger, qui ont des pommiers, eh ben, ça doit leur y rapporter sans trop de travail. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben, vous voyez, ça me fait sourire, parce qu'évidemment, c'est facile à dire ça, mais c'est pas du tout ça, hein. Parce que pour nous, producteurs, le travail, c'est toute l'année. Et évidemment, vous avez aujourd'hui une très belle récolte là qu'on voit partout en Auvergne. Mais elle n'est pas venue toute seule. Il a fallu traiter, il a fallu tailler, il a fallu travailler le sol tout le temps. Dans les prévergers, il a fallu faucher, puis mettre de l'engrais. Et les produits sont terriblement chers. Ce qui fait qu'on arrive difficilement, oui, actuellement, vu les prix de vente, on arrive difficilement à s'en tirer. Oui.
Alors Baltais, il était issu d'une longue lignée. C'était le travail de plusieurs générations qu'il prolongeait. Et c'était un homme à qui vous avez consacré un livre, édition de la Maison du Boulanger à Troyes, qui voyageait, militait dans de nombreuses associations homo benevolus d'horticulture, s'informait sans cesse et a publié un art de greffer qui a connu 13 éditions.
Oui, c'est ça. Baltès, c'est vraiment notre modèle. Parce que c'était un homo benevolus, mais vous savez, quand il plantait, il calculait aussi le rapport qu'il pouvait en tirer, mais c'était dans son siècle, si vous voulez. Donc il est né en 1830, il est mort en 1908, donc il est en plein dans le 19e siècle, qui est l'âge d'or, comme l'appelle Claude Scribe, un de nos anciens
croqueur de pommes,
président, qui a été longtemps président. C'est l'âge d'or, la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est là qu'on crée, c'est là qu'on obtient, c'est là qu'on vulgarise. Et Baltès, c'était tout ça. Puis c'est là qu'on classe. Non seulement on crée des variétés nouvelles, mais on classe. On étudie, on fait de la pomologie. Enfin, on fait de la pomologie.
Pomologie, le mot apparaît à la fin du 18e et se développe au 19e.
Je vois que vous avez très bien étudié la chose. Merci, monsieur Lebrun. Donc, ce Baltais, pour moi, il connaît tout. Il a donc effectivement écrit cet art de greffer que monsieur Boulard de la Société Horticole de Reims, de Sens, dit qu'il faut le relire et l'appliquer tout le temps. Et il faut quand même savoir que cette greffe, c'est important parce qu'elle a sauvé la vigne du phylloxéra, hein, grâce à un coup de génie d'un nommé Léopold de l'Aliment qui s'était aperçu que les porte-greffes américain n'attrapait pas la maladie. Et Baltay, il a tout de suite rebondi. Il a dit oui, il faut adopter cette méthode. Et il s'est battu contre les vignerons pour que cette méthode soit appliquée. Mais dans la famille Baltay, j'ai retrouvé des... Effectivement, vous me parliez d'une famille. Ils ont accumulé ça. Ils vivaient au Faux Fossé. C'est un quartier de Troyes qui n'existe plus. Et tous ont été baptisés dans la même église, pas par le même curé, bien entendu, mais depuis 1590.
Bon, l'église Saint-Nicolas, qui est voisine de la pépinière de Croncelles.
Tout à fait.
D'où sort, moi j'aimerais que vous nous la décriviez, la transparente de Croncelles.
Voilà. Alors c'est l'obtenteur, s'appelle Ernest, c'est le frère cadet de Baltay, c'est lui qui grève, c'est lui qui sème les pépins, et c'est lui qui obtient toutes ces variétés, donc la transparente de Croncelles, qui est une pomme merveilleuse.
Bah, enfin, une pomme merveilleuse,
qui a un défaut.
Parce que si on ne la mange pas à maturité, elle est plus bonne. Hein.
Bah oui, c'est une pomme hâtive, donc il faut la manger comme le fromage à maturité, sinon après elle est fichue, puis elle se transporte mal, elle n'aime pas les coups, elle est fragile.
Elle aime la paille.
Voilà. Ah, tout à fait.
Et ils faisaient aussi des poires, les Baltay. Alors, il y a une poire extraordinaire, je ne sais pas si elle sortait de chez eux, la poire de trois quarts d'heure.
Non, la poire merveilleuse, c'est la Virginie Baltay.
Oui, mais la poire mais de trois quarts d'heure.
Mais la poire de trois quarts d'heure, c'est encore une
histoire. C'est-à-dire qu'il faut la manger, que trois quarts d'heure où elle peut être consommée.
C'est une histoire que raconte Claude Scribe, encore une fois, la poire de trois quarts d'heure, et il faut qu'elle soit mûre pour être mangée. Donc, c'est ça l'intérêt des poires, c'est quand elles ne sont pas mûres, elles sont immangeables parce qu'elles sont trop dures. Et quand elles dépassent, elles deviennent blettes. Et donc cette poire de trois quarts d'heure, elle a tous les défauts de la poire. Mais quand on la mange au bon moment, au bon quart d'heure, elle est excellente.
Voilà. La pomme vient d'Asie, nous avez-vous dit. La pomme revient en Asie. La moitié de la production de la pomme aujourd'hui,
c'est la Chine.
Alors voilà un tube de 2014 qui vous a échappé. Et pourtant, combien de fois a-t-il été vu sur YouTube? Ce sont deux Chinois qui se mettent en scène nus. Mais floutés à l'endroit qui convient, ils sont dans le jardin d'Éden.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Dernière question frivole. Sur votre livre, là, il y a un pommier. C'est pas évident. C'est votre contribution à l'écologie ou c'est une œuvre, une imagination, une intuition artistique? Qu'est-ce que c'est?
C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Et ensuite, je trouvais que c'était joli. Voilà. C'est
comme
tout, ça ne va pas plus
comme
loin.
Ça. Oui, c'est un geste spontané.
J'aime bien le cidre aussi. Chez moi, en Corrèze, il y a des pommiers qui sont des pommiers qui ne sont pas de très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. Alors ça me rappelle un peu cela.
Les croqueurs de pommes de la Corrèze, c'est une association locale de la Corrèze qui a été créée en 2003. Voici 13 ans. Aujourd'hui, c'est la 11e fête du verger familial des croqueurs de pommes de la Corrèze. Nous allons trouver une exposition de fruits, plus de 100 variétés, essentiellement des pommes pour 80 variétés. Parmi ces pommes, il y a 44 variétés d'origine corrèze. Sachant qu'autrefois, en Corrèze, on avait 70 variétés corréziennes. Aujourd'hui, après analyse génétique auprès de l'INDRA, nous avons retrouvé 37 de ces variétés.
croqueur de pommes en Corrèze, honneur au pays de Jacques Chirac. On entendait auparavant un morceau intitulé « Petite pomme ». Je le dis à votre usage, Jean Lefebvre, qui représentait ici les croqueurs de pommes de toute la nation, et particulièrement ceux de l'Aube. Alors vous avez une mission, vous n'allez pas la détailler, mais j'en donne les axes. Retrouver, recenser, décrire, préserver. Ce sont les quatre premiers objectifs. C'est ça ?
Oui, tout à fait. Comment
faites-vous ?
Alors, le gros travail, et on en discute souvent, c'est qu'est-ce qu'on sauvegarde ? Et la réponse, c'est nous sauvegardons les variétés de terroir. Or, qu'est-ce qu'une variété de terroir ? C'est une variété d'origine inconnue, alors qui est implantée dans le territoire, qui a une longue histoire, qui a un nom, donc une fonction, donc une utilisation, donc une tradition. Par exemple, je prends la Christkindl, vous me disiez qu'il fallait
faire l'image avec des noms.
La Christkindl, cette pomme magnifique, rouge, qu'on brosse et puis qu'on met dans le sapin de Noël en Alsace. La pie étoilée aussi, la pie étoilée, qui est une pomme qui a été décrite par Jean Bohun dans les années 1500, donc au XVIe siècle. Et donc, nous, ce sont ces pommes-là qui nous intéressent le plus. Accessoirement, des pommes qui sont venues d'ailleurs. Par exemple, il y a eu des guerres et on a ramené des pommes comme la Colapuy. Il paraît que c'est un nommé Nicolas Puy qui l'a apporté. Donc, on peut dire les avantages collatéraux des guerres. Et ces pommes-là ont été implantées dans un territoire, puis ils ont fait florès, et voilà, ils sont développés. Et puis, il y a une troisième sorte de pomme qu'on peut aussi sauvegarder, c'est le genre transparente de Croncel, dont je vous ai parlé
vous
tout
y
à l'heure.
Revenez, oui.
Parce qu'elle n'est pas elle n'est pas dans le commerce, parce que elle est trop fragile. On l'a
oui, mais enfin, vous racontez voilà. Dans les chroniques que vous teniez dans l'almanach des croqueurs de pommes que vous avez dit à votre voisine de planter une transparente de Croncel et elle a été très mécontente.
Eh oui, mais bien sûr, parce que elle pensait qu'elle allait pouvoir la conserver, la brave femme, et elle n'a pas pu la conserver puisque elle a tout de suite passé, on dit passé pour un fruit. Alors je lui ai proposé une autre, la Jolie Bois, qui elle est tardive. Elle était encore en colère parce que la Jolie Bois, tant qu'elle n'est pas mûre, c'est un peu comme la poire, elle n'est pas très bonne.
On va entendre les conseils de Sylvie Brunel à cet instant. Alors c'est une géographe et elle vient de publier « Croquer la pomme » chez Lattès, un livre que vous avez lu bien sûr, Jean Lefebvre.
Oui, tout à fait. J'ai lu ce livre, j'ai à dire.
Vous avez à dire. Mais elle aussi, elle a à dire sur les croqueurs de pommes, enfin qu'elle traite d'abord avec révérence. C'est une interview par Franck Olivard.
Ce sont des gens merveilleux parce qu'ils s'emploient à conserver des variétés anciennes, à cultiver cet amour de croquer la bonne pomme. Je pense qu'ils doivent faire preuve de tolérance à l'égard des autres arboriculteurs qui, comme eux, sont engagés dans une volonté de produire de belles pommes. Ce sont de véritables chevaliers qui partent du verger jusqu'au compotier. Et le monde des pommes, c'est un monde qui est extrêmement divers. Ce qui est important, c'est qu'ils soient unis dans l'amour de ce fruit merveilleux qui est quand même le fruit de notre culture, de notre civilisation. Regardez la Golden, par exemple. La Golden, on pourrait dire, c'est la pomme symbole de la mondialisation industrielle. En réalité, la Golden, ça a sauvé le Limousin. C'est une région difficile, c'est une région où le climat est rude, et on a, dans le Limousin, à peu près les mêmes conditions qu'au Kazakhstan, vous savez, le berceau de la pomme. Eh bien, les pomiculteurs du Limousin ont considéré que la Golden, c'était leur pomme d'or. Ils ont des critères de qualité fabuleux, c'est une AOP, une appellation d'origine protégée. Ils ont des chartes de bonne conduite avec leurs voisins de plus en plus néo-ruraux. Et donc la pomme, c'est le symbole de la mondialisation, mais dans ce qu'elle a de plus beau, c'est-à-dire la capacité à nous apporter la très grande diversité de ce que la recherche et l'agriculture unies peuvent produire en termes de diversité des goûts, diversité des attentes. Et quand vous allez dans un supermarché, vous avez vu le nombre de pommes qui sont en vente? C'est incroyable! Vous en avez des vertes, des rouges, des jaunes, des blanches. Les pommes, c'est fabuleux.
Je vous pique une image que vous avez mise en avant dans vos chroniques. Le choix des supermarchés est à la diversité, ce qu'est la poupée Barbie à l'humanité.
Oui, j'ai entendu Madame Brunel, c'est l'œcuménisme dans la pomme, dans la pomologie. Elle a fâché le président actuel, Jacques Marchand. Mais elle a fâché aussi beaucoup de croqueurs parce qu'elle dit « Golden Starking Gala, trois pommes miracles ». Alors, je sais bien que Madame Brunel défend la culture intensive qui répond à des critères commerciaux et non à des besoins réels. Et pour nous, les besoins réels, c'est la diversité et la qualité. Si vous voulez que j'en parle un peu, la diversité. Ces trois fruits dont elle cite, c'est les trois pommes glorieuses du verger. Hein. Alors que nous avons sur le territoire les 5000 variétés de pommes et autres fruits. Et vous citiez une phrase tirée d'un de mes texticules. Je suis tout à fait d'accord. La poupée Barbie et l'humanité, voilà. La pomme.
Si vous êtes d'accord avec vous-même, c'est bien.
Mais oui,
mais il y a la qualité. Il y a la qualité, mais il y a aussi la durée de conservation. On ne transporte plus les pailles.
Vous en voulez ma transparente de Concelles, monsieur. Monsieur Lebrun.
On ne transporte plus les pommes sur de la paille, on les transporte dans des conteneurs.
Oui, bien sûr.
Il faut s'adapter à ça.
Donc, moi, ce que je vois dans ces pommes miracles, et ça, c'est important, elles sont un peu les pommes de la sorcière qu'a empoisonné Blanche-Neige. Excusez-moi de le dire, mais je prends référence à François Laurence de l'INRA, qui a créé une pomme, l'Ariane, qu'on trouve sur les marchés, qui est donc, qui a été créée sans pesticides. Alors, il dit que parmi les grandes variétés commerciales, la pomme est l'un des fruits les plus traités 35 fois en moyenne. D'où son souci, par le biais des hybridations, en particulier avec nos pommes de terroir, de créer des variétés plus respectueuses de l'environnement et de notre santé. Et alors,
Vous savez ce que dit Sylvie Brunel, les croqueurs de pommes sont des retraités eux-mêmes, bien souvent. Et puis alors, le jardinage amateur, vous voyez, sont les bases trop précaires pour créer un système d'alimentation qui puisse satisfaire les villes. Et d'ailleurs, vous-même, vous vous interrogez, parce que les quatre premières missions des croqueurs, vous les remplissez très bien. Mais la dernière, reconstruire.
Reconstruire, oui.
Vous n'y arrivez pas.
Justement, en finissant avec Sylvie Brunel, elle nous dit nos pauvres pommes.
On est toujours avec elle.
Oui, parce que ça donne la conclusion. Nos pauvres pommes, dit-elle, ne peuvent pas aborder les marchés mondiaux. Elles n'ont pas, il faut le savoir, cette ambition. Elles sont présentes au titre de l'histoire et du patrimoine ancien, mais elles seront présentes quand même parce que on utilise les gènes de ces fruits-là. Et où il y a des gènes, il y a bien sûr du plaisir futur. C'est-à-dire que nos pommes anciennes, elles vont se retrouver sur les marchés mondiaux.
Voilà. Alors reconstruire, comment faites-vous ?
Reconstruire. Alors, moi, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont.
Honnêtement.
On a du mal. La sauvegarde est difficile. Elle est modeste, elle est militante. Et à mon avis, on réussira parce que les variétés anciennes de terroir sont rarement valorisées, donc on essaye de les faire connaître, sauf pour le cidre et certaines recettes, parce que dans les pommes anciennes, il y a beaucoup d'utilisation. Mon ami Bruno Farine à Mousset fait du cidre avec des pommes anciennes, mais il n'est pas le seul pommiculteur à faire ça. D'ailleurs, j'aurais voulu lui citer son petit verger de poche, mais on fera ça une autre fois.
Vous avez un verger, vous ?
Oui, j'ai un verger à Chaours. Bon, je m'efforce aussi.
L'arbre aime l'ombre du jardinier.
Tout à fait.
Merci à vous, les croqueurs de pommes. Beaucoup de sections en France. Le 65. Livre de Sylvie Brunel pour alimenter la polémique chez Lattès. Et puis l'almanach que vous m'avez apporté pour l'année 2018 des croqueurs. Notre site sera rempli demain avec toutes ces références. On fait encore aller polémique d'une manière un peu polarisée, un peu caricaturale en guise de générique de fin.
Une pomme non traitée, eh bien c'est une pomme qui va s'abîmer. Il faut surtout pas croire que traiter c'est tuer. Traiter c'est protéger. Protéger l'être humain, la santé humaine, comme la santé végétale. J'ai envie de dire aussi, vous pouvez faire confiance aux producteurs français, ce qu'on appelle les vergers éco-responsables, qui sont une charte de qualité. Ça unit aussi bien des vergers conventionnels que des vergers bio. Et il y a cette même démarche de qualité et d'amour du métier.
Oui, alors, combien vous en faites de traitement à peu près ?
Ben écoutez, cette année, ça a été une année qui a été assez facile, puisqu'il a fait très beau, il n'a pas plu, on n'a que fait 12 traitements.
Ben j'ai déjà pas mal, faut la faire marcher la pompe à sulfater. Hein.
Ah oui, croyez-moi qu'au mois d'avril et de mai, au moment de la floraison, on ne s'arrête guère.
Reportage, préparation, Franck Olivard, Frédéric Martin, la réalisation Valérie Aestaraï, à la technique Ludovic Asselot. Et chez vous, Mathieu Vidard, bonjour.
Bonjour Jean, on va s'intéresser aux apprentis sorciers de la science aujourd'hui, grâce au mythe de Frankenstein, mais il y a aussi Prométhée avant. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet avec mes invités qui vont également évoquer l'intelligence artificielle.
Dans un instant, donc, la tête au carré.